Théologie mystique, Père Philippe, 12 novembre 1982, Rimont.
Donc après vous avoir rappelé l'importance de ces écrits joanniques qui terminent toute la révélation, qui achèvent toute la révélation, et donc qui nous permettent d'entrer dans le mystère du Christ et de la très sainte Trinité d'une manière très unique, nous allons essayer d'abord, en premier lieu, si vous voulez, de ponctuer un peu l'évangile de Saint Jean, et puis après de l'analyser. Mais en comprenant bien, c'est une analyse non pas de théologie scientifique, mais de théologie mystique, c'est-à-dire dans la lumière de cette révélation d'amour. Comment, de fait, nous devons essayer de découvrir à l'intérieur de l'évangile de Saint Jean ce qui assume toute la révélation précédente, ce qui donne la signification dernière à toute la révélation précédente. Tout est ordonné au Christ, l'épître aux Hébreux le dit bien, et il ne faut jamais l'oublier, l'épître aux Hébreux nous montre que de fait, toute la révélation prend son sommet et sa signification dans le Christ, le Fils bien-aimé, et la révélation du Fils bien-aimé se fait de fait à travers l'évangile de Saint Jean d'une manière ultime. Il y a les deux aspects, et c'est important de voir ce double mouvement, parce que ça nous fait comprendre comment l'évangile de Jean contient à la fois la tradition et puis en même temps l'ultime révélation. La tradition, c'est parce que l'évangile de Jean n'a pas été écrit immédiatement au moment de Jésus, il a été écrit longtemps après, et longtemps après la mort de Marie, et que dans l'évangile de Jean, nous découvrons toute la tradition, c'est-à-dire le cœur de Marie qui garde la révélation de Jésus. Et que c'est bien à travers l'évangile de Saint Jean, au-delà de l'Apocalypse, au-delà de la première épître, que nous découvrons ce qu'il y a d'ultime. Ça, je crois qu'on peut le comprendre tout de suite et comprendre la perspective dans laquelle nous nous plaçons. Il y a d'abord le prologue. Le prologue, nous le verrons longuement et lentement, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Je crois qu'on peut l'intituler, alors je mets des petits titres pour que vous aidiez à comprendre, des petits titres d'ordre théologie mystique. Le prologue de Saint Jean, je crois que nous pouvons dire que c'est la charte de la contemplation. C'est très étonnant de voir comment l'évangile de Saint Jean commence par ce prologue quand vous regardez les autres prologues des autres évangiles. C'est quand même quelque chose de tout à fait autre. C'est très difficile. Les exégètes se sont posé la question d'où ça vient. Je me souviens, le cher père Braun, que j'aimais beaucoup, qui était un excellent exégète de Saint Jean, le père Braun considérait toujours le prologue de Saint Jean. Alors je me souviens, je prêchais en Belgique, et il était venu me rejoindre, parce qu'on s'aimait beaucoup, et toujours un peu inquiet quand je disais que je prêchais sur Saint Jean en exégète, il était inquiet. « Ah, vous prêchez sur Saint Jean ?» Je dis « Oui, j'ai prêché sur le prologue ce matin. » « Oh oui, ce prologue qui n'est pas de Saint Jean. » Alors j'ai dit « Mon cher père, ce matin, c'était encore du temps où on disait à la fin de la messe, hein, le prologue de Saint Jean comme dernier évangile. » J'ai dit « Ce matin, qu'est-ce que vous avez dit ?» Vous avez quand même dit en latin que c'était « initium », hein, le point de départ de l'évangile de Saint Jean. Vous n'avez pas mis en suspens l'évangile de Saint Jean. Alors vous avez deux vérités. Alors là-dessus, hein, surtout pas là-dessus. Quand même, c'est pas tant que l'Église, je lui ai dit, tant que l'Église ne dira rien, je considère que le prologue de Saint Jean est de Saint Jean. Le jour où l'Église me dira que le prologue de Saint Jean n'est pas de Saint Jean, je m'inclinerai, mais pas avant. Les exégètes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, la tradition l'a considéré comme de Saint Jean. Et donc, pour notre foi, c'est de Saint Jean. C'est très net là-dessus, hein, parce que les opinions exégétiques, ça change. Vous savez bien, au début, que quand je faisais mes études, les premières études, enfin, mes études théologiques, j'avais un professeur d'exégèse de Saint Jean. J'y reviendrai de temps en temps, parce que ça m'est resté, j'ai gardé certaines... Et c'était un bon professeur, c'était quand même quelqu'un de très bien. Il est au ciel maintenant, c'était pas le père Spic, mais c'était l'autre. Alors, celui-là, constamment, n'est-ce pas, de fait, quand il s'agissait de Saint Jean, on voyait qu'on ne savait pas très très bien. On cherchait l'origine du prologue, et on disait influence de Philon. À cause du logos, influence de Philon. Maintenant, on ne le dit plus du tout. C'est complètement passé, ça. C'est très curieux, vous voyez. Alors, c'est pour ça que si on s'attache à telle ou telle donnée, non, je crois que le prologue de Saint Jean, mais c'est sûr qu'il y a des influences grecques. C'est évident, l'influence grecque est suffisamment nette dans l'évangile de Saint Jean. Et en même temps, il reste ce qu'il est, hein, fils de Zébédée. C'est pas tout à fait un grec. C'est autre chose. Mais il a subi une influence grecque. Et ce que dit le père Brown quand il parle de Saint Jean, je crois que c'est très très juste. Jean est très influencé par tous les écrits qui sont de fait les écrits sapientiaux. Et il fait la synthèse des écrits sapientiaux et de tous les autres aspects prophétiques. Parce que c'est vrai qu'on a dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, il y a toujours ces deux grands courants. Les écrits sapientiaux sont ultimes, mais représentent quelque chose de très très différent que tous les autres aspects des prophètes. Et Saint Jean est au terme de tout cela. Mais le prologue, je ne peux pas l'expliquer par l'Ancien Testament. Je ne peux pas l'expliquer par tel ou tel auteur comme Philon. Je dois le recevoir. Et alors j'ai dit « Chartre de la contemplation » et nous essaierons de comprendre le prologue dans toute sa force. C'est le point de départ de ce que représente l'évangile de Saint Jean. Jean veut nous montrer comment nous devons lire son évangile en contemplatif. C'est pour ça que je dis « Chartre de la contemplation ». Je dois lire l'évangile de Jean en contemplatif. Et toute la tradition est là pour nous dire « Jean le contemplatif ». Jean, le vol de l'aigle, c'est-à-dire le vol de l'Esprit-Saint. Et le prologue me fait comprendre. Chacun des prologues, hein, des différents évangiles, me fait comprendre le point sous lequel je dois le regarder. Et la tradition a aimé de regarder, vous savez bien, les symbolismes des quatre vivants comme représentant le symbolisme des différents évangiles, des différents évangélistes. Le taureau, le lion... Le visage d'homme est l'aigle. Alors l'aigle, tout le monde est d'accord que c'est Jean. Eh bien, je crois que le prologue, c'est le vol de l'aigle. Hein. Ça nous montre tout de suite quelque chose de tout à fait particulier et d'unique. Alors, nous insisterons là-dessus, puisqu'on a le temps. Hein. Alors, la charte de la contemplation. Une théologie mystique commence par la charte de la contemplation. Ensuite, vous voyez tout de suite, et c'est un contraste très étonnant, le témoignage de Jean-Baptiste. Le témoignage de Jean-Baptiste, c'est au contraire dans le temps. Jean-Baptiste, il est très enraciné dans le temps, puisqu'il représente le dernier moment de l'Ancienne Alliance. Alors, comme il représente le dernier moment de l'Ancienne Alliance, il est tout proche, hein, de la Nouvelle Alliance. Jean-Baptiste joue un rôle très important pour Jean. Et c'est important de comprendre ce témoignage de Jean-Baptiste. Ça nous fait comprendre l'espérance eschatologique. Jean-Baptiste, il est revêtu de l'esprit d'Élie. Et Élie doit revenir pour annoncer le retour du Christ. Alors Élie, hein, c'est pas une réincarnation d'Élie, hein, mais c'est une réincarnation de l'esprit d'Élie. Ça, sûrement. L'Élie représente le grand prophète, et comme Jean-Baptiste est encore plus grand qu'Élie, c'est le grand prophète revêtu de l'esprit d'Élie qui montre ce que c'est que l'espérance eschatologique. Nous essaierons de comprendre. Et troisième point, j'analyse, voyez, j'analyse en théologien, c'est une analyse théologique que je vous fais, la vocation des apôtres. Nous avons donc trois moments du début de l'évangile de Saint Jean avant la vie apostolique de Jésus. La foi contemplative qui pénètre au plus intime du mystère de Dieu et de la très sainte Trinité par le Verbe. L'espérance eschatologique, l'espérance du pauvre et le choix du Christ. Vous voyez, je crois que c'est toute la structure de notre vie chrétienne qui nous est donnée dès le point de départ de l'évangile de Saint Jean. Au niveau théologie mystique, si je veux comprendre ce que c'est qu'un chrétien, c'est celui qui est fils bien-aimé du Père et donc qui a un regard contemplatif. C'est celui qui a une espérance du retour du Christ et c'est celui qui vit du choix du Christ. La vocation chrétienne. C'est Jésus qui nous choisit. Vous voyez, c'est quand même très curieux de retrouver à travers ces trois moments les trois vertus théologales. Et c'est bien ça la vie chrétienne, c'est de vivre des vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Et c'est bien structuré, c'est merveilleusement structuré, ça. Il suffit de le comprendre. Une fois qu'on l'a saisi, on dit, mais oui, ça peut pas être autrement. Mais c'est quand même très étonnant de voir que, de fait, vous retrouvez toute la structure de la vie chrétienne dans le premier chapitre. Avec le livre 2, le chapitre 2, je veux dire, avec le chapitre 2, commence la vie apostolique de Jésus. Alors, voyez, soulignons ça tout de suite. Jean est le seul qui nous montre que la vie apostolique de Jésus se fait tout de suite avec les apôtres, collégialement. C'est intéressant de comprendre ce que c'est que la collégialité. Vue dans la lumière de Saint Jean. La collégialité vue dans la lumière de Saint Jean, c'est de voir que Jésus a commencé sa vie apostolique avec les apôtres. Autrement dit, il a choisi les apôtres avant. Il les a choisis seuls. Marie n'est pas présente dans le choix des apôtres. Et Marie est présente dans la vie apostolique. Il faudra comprendre ça. C'est net, si je veux lire le texte. Vous voyez qu'après Cana, il est dit tout de suite. Après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils ne demeurèrent que quelques jours. Après Cana, c'est Capharnaüm. Alors là, il y a tous des problèmes historiques qui sont très intéressants à regarder, mais nous ne les regarderons pas beaucoup. Peut-être en note marginale. N'est-ce pas, un nota bene marginal, essayer de comprendre l'itinéraire premier de Jésus. Est-ce que Jésus a commencé sa vie apostolique à Cana, ou est-ce qu'il l'a commencé à Capharnaüm, ou est-ce qu'il l'a commencé à Nazareth? Parce que vous avez trois points de départ, c'est intéressant, selon la sensibilité des apôtres. Vous avez Capharnaüm, vous avez Cana, vous avez Nazareth. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de contradiction, mais ce sont des éclairages différents. Or, comme Saint Jean nous est donné en dernier lieu, c'est à la lumière de Saint Jean que je regarderai les autres. Et non pas l'inverse. C'est l'ordre le plus parfait qui nous éclaire sur l'ordre moins parfait. Et donc, c'est vraiment Cana qui est premier. Et je vois que dès que Cana existe, il le fallait. Il fallait que Marie soit au point de départ de la vie apostolique de Jésus. Alors que le choix des apôtres, encore une fois, et ça c'est très important à comprendre, le choix des apôtres se fait en dehors de Marie. Jésus est parti au désert et Jésus a choisi ses apôtres. Et Jésus revient en Galilée, à Cana, et commence sa vie apostolique à Cana. Alors, nous voyons comment ponctuer la vie apostolique de Jésus à partir de Cana. Alors là, j'essaie. Là encore, mon cher professeur d'exégèse avait dit, en cours d'exégèse sur Saint Jean, surtout ne cherchez pas l'ordre dans Saint Jean. Je dis, les professeurs, ça sert à deux choses. Ou on est d'accord avec eux, alors c'est magnifique, ça va très bien, ou on n'est pas d'accord avec eux, ça pose des problèmes et on veut les résoudre. Et alors ça nous éveille. Alors ce cher professeur d'exégèse avait dit, surtout quand vous lisez Saint-Jean, ne cherchez pas d'ordre. Alors il donnait ce petit exemple, je viens de recevoir la dissertation d'un étudiant. On m'appelle au téléphone, c'était le Solchoir de Belgique. Hein. Alors le Solchoir de Belgique, on avait quand même souvent les vents du nord qui étaient assez violents. On m'appelle au téléphone, je descends à toute vitesse pour, par charité, pour ne pas laisser trop longtemps la personne derrière. C'était du temps où on avait un téléphone, on n'avait même pas ce qu'on a encore ici. Ici, on a quand même plusieurs manières de brancher, n'est-ce pas ? Tandis que là, il n'y avait qu'un téléphone chez le portier, et on devait descendre deux escaliers ou trois escaliers et courir à toute vitesse avant que la communication soit coupée, n'est-ce pas ? Alors, je descends à toute vitesse, je ne fais pas attention quand je rentre, la fenêtre est ouverte. Évidemment, alors, tous les papiers de la dissertation vont dans tous les sens. Et l'étudiant a oublié de noter 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut arriver, des étudiants qui sont en veine de composition, n'est-ce pas, pour faire un mémoire. Ils oublient de noter, c'est secondaire, noter, c'est tout à fait secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contenu. Alors, il avait oublié de mettre les chiffres. Alors, ce bon père dit, je ramasse comme je peux, je lis. Chaque page est intelligente, mais je ne vois pas du tout l'ordre. C'est l'évangile de Saint Jean. Ça, j'ai retenu, parce que c'est très bon, ça, c'est excellent, ça, c'est merveilleux. Vous voyez, le souffle du vent du Nord et l'Esprit Saint. Alors, vous voyez la différence. C'est que d'un côté, c'est chaotique, et de l'autre côté, c'est ordonné. Vous voyez, dire que l'évangile de Saint Jean n'a pas d'ordre, c'est quand même très, très dangereux. Toutes les œuvres de Dieu, c'est dit dans l'Écriture, et c'est une des phrases que saint Augustin aime tellement. Lui qui est un grand amoureux de Saint Jean, il ne faut pas l'oublier. Toutes les œuvres de Dieu impliquent mesure, ordre et poids. Ces trois affirmations qui sont si importantes à comprendre. Toutes les œuvres de Dieu impliquent mesure, ordre et poids. Alors, la grande œuvre qui termine toute la révélation serait sans ordre. C'est un peu gênant. Et le vieux Saint Jean, fatigué, alors qu'il écrit 10 lignes, il est fatigué après. Alors il reprend, il fait comme Claudel, j'ouvre le robinet une demi-heure, et puis après je. Et Claudel a affirmé, je ne relis jamais ce que j'ai écrit la veille. Ça fait comprendre Claudel du reste. Je ne relis jamais ce que j'ai écrit la veille, puis je continue. Je crois que Jean ne composait pas de cette même manière. C'était sous le souffle de l'Esprit-Saint, c'était le vieux Saint-Jean, c'est très vrai. L'Esprit-Saint aime bien quelquefois les vieillards. Ça peut arriver, il n'aime pas que les jeunes, il aime aussi les vieillards. Et alors, il peut leur donner une espèce de sagesse particulière, spéciale. Je crois que dans l'évangile de Saint-Jean, il y a un ordre. Mais ce n'est pas un ordre cartésien. C'est un ordre tout à fait différent. C'est un ordre de vie. C'est un ordre de l'amour. Or, l'ordre de la vie et l'ordre de l'amour, c'est tout à fait différent. Et je crois qu'il faut découvrir. Vous voyez, cette parole de ce cher professeur d'exégèse, moi, m'a toujours travaillé. Et j'ai essayé de lire, relire, relire l'évangile de Saint Jean indéfiniment pour découvrir l'ordre. L'ordre de sagesse. Et lorsque on lit l'évangile de Saint Jean pour découvrir l'ordre de sagesse, alors on est très frappé. Alors je vais vous donner ici le fruit de cette lecture. Hein. Ce n'est pas d'ordre exégétique, et c'est pourtant à l'intérieur même du texte. Et à l'intérieur même du texte, vous le découvrirez vous-même, et si vous, il y a des difficultés, vous me le direz, parce que c'est intéressant. Ce n'est pas secondaire de découvrir l'ordre dans l'évangile de Saint Jean. Je crois que c'est très très important, l'ordre de sagesse. Bien. Vous pouvez voir que Saint Jean insiste sur les repas. Il est réaliste. C'est important dans la vie commune. Vous savez bien ce qu'on dit chez les bénédictins. Quand on veut savoir le nombre de religieux, il faut les compter au repas. N'est-ce pas ? C'est pas à la chapelle et pas à la vie liturgique, mais au repas. Alors là, on est sûr. Ils sont tous là. Alors le repas fait l'unité. N'est-ce pas ? C'est quelque chose d'important. Alors, les repas dans l'évangile de Saint Jean, c'est quelque chose de très important. C'est très curieux. L'Ancien Testament est ponctué par les sacrifices. Et ce qui est d'ultime dans l'évangile de Saint Jean, donc dans l'économie divine, c'est ponctué par les repas. Et vous comprenez tout de suite. L'Ancien Testament est ponctué par l'adoration, les sacrifices, les rencontres de l'homme avec Dieu. Et ça, nous le verrons en lisant l'Écriture, en essayant de comprendre une théologie biblique. Tandis que le dernier livre de l'Écriture n'est pas ponctué par le sacrifice, mais par les repas. Pourquoi ? Parce que les repas, c'est la charité fraternelle. Alors vous comprenez que les deux extrêmes de l'économie divine, c'est l'adoration et la charité fraternelle. Alors vous comprenez, ça devient normal que de fait, les deux choses ne sont pas en opposition. Quand je dis repas, je n'oppose pas avec sacrifice. Vous verrez au cœur de l'évangile de Saint Jean, le mystère de la croix. Mais le mystère de la croix est enveloppé du mystère des repas. Alors une fois que vous avez saisi ça, vous comprenez tout de suite. Du chapitre 2 au chapitre 6. Cana, multiplication des pains. Vous voyez, il y a la théologie des repas dans Saint Jean. Nous la ferons, parce que c'est très important. Et ça, on ne peut pas le faire en théologie scientifique. Saint Thomas n'a pas un chapitre sur la théologie des repas. Tandis qu'en théologie mystique, on doit faire un chapitre sur la théologie des repas. C'est bien évident, puisque c'est au centre de toute notre vie, hein, le repas eucharistique. C'est quelque chose de capital, qui ne s'oppose pas du tout au sacrifice, qui l'implique. Pour qu'il y ait un repas, il faut qu'il sacrifice. Alors, du chapitre 2, Cana à la multiplication des pains, chapitre 6. Alors, si vous êtes attentif à ça, vous voyez qu'en effet, c'est deux repas les plus opposés qui soient. Cana, c'est le repas bien préparé, puisque c'est un repas de noces. Le repas par excellence, c'est le repas de noces, ça ne peut pas être mieux. Tandis qu'au contraire, chapitre 6, c'est le repas totalement improvisé. C'est même pas un pique-nique. Parce qu'un pique-nique, ça fait bien, surtout aujourd'hui. On emporte avec soi des tas de choses invraisemblables. Des petites caisses frigidaires. C'est merveilleux. Ce sont des pique-niques pas du tout improvisés. Tandis que là, c'est vraiment Jésus qui, lui-même, va payer tous les frais. De façon gratuite, étonnante. Tandis qu'à Cana, c'est les hommes qui ont préparé. Il y a une fêlure. Une fêlure importante. Il y a une fêlure dans ce repas de noces. Alors, de Cana à la multiplication des pains. Voilà le premier moment. Ça, c'est net. Et c'est assez facile à comprendre. Je donne là encore une fois la manière de le lire. Je crois que ce premier moment de la vie apostolique de Jésus est dans la lumière de la grande révélation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. C'est ce mystère de l'agneau de Dieu qui va commander le premier cycle de la vie apostolique de Jésus. Jésus va montrer qu'il est l'agneau. Jean-Baptiste l'annonce divinement et Jésus réalise. Et alors la réalisation, c'est facile à comprendre. Le mystère de l'agneau, c'est quoi ? C'est la miséricorde. Alors vous avez le cycle de l'agneau. Le cycle de l'agneau, c'est Cana, purification du temple, Nicodème. C'est le cycle de l'agneau. Les trois grands gestes de miséricorde. La théologie de la miséricorde. Et la théologie de la miséricorde, c'est le cycle de l'agneau. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce cycle de l'agneau est réservé au peuple d'Israël. Jésus vient en premier lieu pour le peuple d'Israël. Cana, c'est la Galilée, ce sont les amis. Alors c'est très curieux de voir que l'ordre de l'amitié joue une place si importante. Parce qu'au fond, on dirait Jésus aurait dû commencer à Jérusalem. S'il vient en premier lieu pour le peuple d'Israël, non, Cana. Cana passe avant le temple. Si on avait donné un conseil au Saint-Esprit, on lui aurait dit non, 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 c'est le temple en premier lieu. Cana, purification du temple. Alors évidemment, là on verra, il y a des tas de petites choses qui sont intéressantes à préciser, que je crois très importantes. Et puis Nicodème. On ne peut pas nier que c'est vraiment tout le mystère d'Israël qui nous est montré là. Israël dans sa détresse, Israël qui attend le Messie et qui n'a plus de prophète. C'est ça Cana. Alors il n'a plus que l'eau. Israël dans le temple c'est vraiment le cœur d'Israël, c'est le temple. Et ce temple qui n'est plus respecté comme il aurait dû être respecté. Et puis ensuite, Nicodème, c'est l'intelligence d'Israël. Vous voyez, les trois grandes misères d'Israël, les trois grandes misères, ils n'ont plus de vin. Le temple n'est plus le lieu de la prière. Et Nicodème fait une mauvaise théologie. Et Jésus lui fait une correction, hein. Jésus a corrigé Nicodème comme très peu il en a corrigé. Parce que dès que Jésus est en face des intellectuels, il les corrige très bien. Il les dégonfle. Toujours. C'est toujours la première chose qu'il fait. Parce qu'il les aime, hein, il les aime. Mais il sait que le défaut mignon des intellectuels, c'est d'y croire à leur intelligence. Hein, et c'est difficile d'être enseigné. Alors vous avez le cycle de l'agneau qui regarde Israël. Vous voyez, c'est l'Israël qui est enveloppé de la miséricorde de l'agneau. Il vient pour l'iniquité du monde, mais il vient en premier lieu pour l'iniquité d'Israël. Et l'iniquité d'Israël est présentée par ces trois grandes blessures du peuple d'Israël. C'est toute une vision sur le peuple d'Israël qui nous est montrée là, et qui est très étonnante, qui est très très belle. Ensuite, il y a un petit épisode qui sert de charnière. C'est la rivalité qui existe entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Ce n'est pas les disciples de Jésus qui sont jaloux des disciples de Jean-Baptiste, c'est les disciples de Jean-Baptiste qui sont jaloux des disciples du Christ. Tout simplement parce que du côté du Christ, il y en a beaucoup plus que du côté de Jean-Baptiste. Vous savez, le nombre suscite toujours la jalousie. Hein, c'est évident. Alors on voit très très bien, comme à la suite du Christ, il y en a des quantités qui viennent et que les disciples de Jean-Baptiste n'augmentent pas tellement. Alors les disciples de Jean-Baptiste disent, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu l'as laissé passer devant. Crise de jalousie. Ça c'est important de voir cette crise de jalousie. En face de cette crise de jalousie, Jean-Baptiste, comme un père-maître merveilleux, découvre que le Christ est l'époux. Celui qui a l'épouse est l'époux. Vous voyez les deux grandes révélations de Jean-Baptiste, l'agneau et l'époux. L'agneau, la miséricorde, l'époux, la jalousie de l'amour. C'est très curieux que vous retrouviez les deux grandes intuitions de l'Apocalypse. L'agneau, l'époux. C'est deux grandes intuitions. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand on regarde vraiment l'Évangile et l'Apocalypse, on retrouve exactement les mêmes axes. Et derrière, nous essayons de comprendre, derrière il y a toute une théologie du mystère du Christ et une théologie de la très sainte Trinité qu'il faudra essayer de comprendre. Parce que vous comprenez bien qu'à travers tous les gestes du Christ, Jésus se révèle à nous. À travers la miséricorde de l'agneau, nous découvrons Jésus. À travers la jalousie de l'époux, nous découvrons Jésus. Nous découvrons le cœur du Christ. Alors on peut dire qu'à partir de ce moment, on est en présence du cycle de l'époux. Le cycle de l'époux, c'est la rencontre avec la Samaritaine. C'est normal, hein? C'est toujours auprès du puits que se font les rencontres nuptiales. Toujours. Et donc c'est auprès du puits que Jésus rencontre la Samaritaine. Et c'est une rencontre nuptiale. C'est Jésus époux, le regard de l'époux sur la Samaritaine. Puis nous avons de nouveau à Cana le regard de Jésus vis-à-vis de ce petit basileus de Capharnaüm qui n'est pas juif, qui est un père malheureux et qui vient intercéder pour le salut de son fils. C'est rare qu'un père intercède, et c'est l'intercession du père. Et Jésus guérit l'enfant. Et troisième moment, de nouveau à Jérusalem, ce n'est plus au temple, c'est à la piscine de Bethsaida. Vous retrouvez donc trois moments du cycle de l'époux. La Samaritaine, Jésus face à l'enfant, Jésus face à l'infirme. Alors là, vous voyez tout de suite cette chose très étonnante, si l'agneau est réservé au peuple d'Israël, l'époux, dans sa jalousie, dépasse tous les conditionnements. Le dépassement à l'égard du peuple d'Israël. La Samaritaine, c'est la sœur séparée. On dirait ça aujourd'hui, hein. La Samaritaine, c'est la sœur séparée, c'est bien évident. Elle n'est pas tout à fait dans l'orthodoxie, un petit peu à côté. Et c'est elle que Jésus rencontre. Le petit Basileus de Capharnaüm, ce n'est pas un Israélite. Il est Basileus, il est fonctionnaire, haut fonctionnaire. Et à la piscine de Bethsaida, ce n'est pas précisément ceux qui sont reconnus comme bénis de Dieu. C'est plutôt tous ceux qui sont rejetés. On dirait des excommuniés. C'est très curieux de voir que le cycle de l'époux, qui exprime la jalousie de l'époux, s'étend au-delà des limites du peuple d'Israël. Il y a comme un dépassement. C'est ça qui est très très beau. Hein. Vous voyez, c'est aussi très important pour nous, bien saisir ça. Parce que instinctivement, nous dirions, nous, l'amour s'est réservé aux intimes, et la miséricorde, c'est pour les pauvres types. C'est ce qu'on fait automatiquement, ça. On a nos pauvres qu'on aide, qu'on soit. La miséricorde. Et puis, l'intimité avec ceux qu'on connaît, qu'on aime. Eh bien, Jésus fait juste l'inverse. Conduit par l'Esprit Saint. Le cycle de l'agneau, c'est à l'égard du peuple d'Israël. C'est eux qui ont le plus besoin de la miséricorde. Et le cycle de l'époux, c'est à l'égard de tous ceux qui sont un tout petit peu en dehors. La jalousie de l'époux, elle s'étend vis-à-vis de tous les autres. Et puis tout se termine par le grand discours du Fils. C'est dans le chapitre 5, c'est facile à découvrir, chapitre 5, où nous découvrons c'est pour vous donner la référence exacte, chapitre 5, verset 19. Le grand discours du Fils. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne voit faire au Père. Vous voyez donc, simplement en regardant le texte, vous voyez donc sept moments. C'est pas pour le plaisir de retrouver le chiffre 7, hein. Mais dans l'Apocalypse, c'est exprimé. Dans l'Évangile de Saint Jean, ce n'est pas exprimé, mais c'est présent. Vous avez sept moments. Trois, la miséricorde. Trois, l'amour jaloux. Trois, la miséricorde de l'agneau. Trois, l'amour jaloux de l'époux. Et puis le dernier, le Fils bien-aimé. Vous avez donc là toute une vision du premier moment de la vie apostolique de Jésus. Les éclosions, les prémices. Les prémices de la vie apostolique de Jésus. Il y a des luttes, mais il y a les conquêtes. Les conquêtes magnifiques. Chaque fois, il y a une conquête. Hein. Ça ne se termine jamais mal. Hein. C'est le propre des prémices, ça. Vous verrez bien, dans votre vie apostolique. Quand vous commencerez à avoir des échecs, vous direz, les prémices sont terminées. Tandis qu'au début, c'est merveilleux, on fait des conquêtes extraordinaires. Un jeune père, il fait des conquêtes merveilleuses. Bon, jamais personne n'a fait des conquêtes comme lui. C'est vrai, pour chaque jeune père, c'est comme ça. C'est ça qui est très étonnant. Il y a une espèce de grâce de Dieu qui est donné les prémices. De Cana à la multiplication des pains. C'est ce phénomène de cette source d'eau jaillissante à la fois de la miséricorde, de l'amour et du Fils bien-aimé. Ce premier moment. Alors, si vous réfléchissez, vous voyez que Jean nous donne cette vision sur Jésus. Il est l'agneau, il est l'époux, il est le Fils bien-aimé. Et ceci, c'est proprement johannique. Vous ne le retrouvez pas dans les synoptiques. Ça ne veut pas dire que c'est opposé, c'est pas ça du tout, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui explicite le mystère de l'amour. C'est parce qu'il est le Fils bien-aimé qu'il est l'époux, qu'il est l'agneau. C'est parce qu'il est le Fils bien-aimé qu'il est l'époux et qu'il est l'agneau. Et il est à la fois prêtre, roi, prophète. Alors vous voyez la différence avec les synoptiques. Je souligne ça parce que nous le verrons en revoyant le texte, en lisant le texte. Mais c'est bon d'essayer d'avoir cette lumière, ça nous aide beaucoup. Dans les synoptiques, la mission du Christ est toujours prise de cette triple manière. Et le Saint-Père l'a repris du reste dans son encyclique Mysterium Fidei. C'est très très bien, c'est très vrai. La mission du Christ, c'est la mission du prêtre, du prophète et du roi. Les trois aspects habituels de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, nous voyons bien cela. Et Jésus reprend cela. Jean dépasse cette vision-là en nous montrant qu'il est l'agneau, l'époux et le Fils bien-aimé. Il nous fait donc comprendre qu'il est bien prêtre, mais prêtre d'amour. Qu'il est bien roi, mais roi d'amour. Qu'il est bien prophète, mais prophète d'amour. Il est le Fils bien-aimé. Je crois que c'est cela qui nous fait saisir ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans la vision johannique sur le Christ. Jean est celui qui nous montre d'une manière très particulière que l'alliance nouvelle dans le cœur de Jésus est une alliance sacerdotale. C'est pour ça qu'on considère toujours que l'épître aux Hébreux fait le lien entre les épîtres pauliniennes et saint Jean. Parce que c'est le point de vue sacerdotal. Mais dans l'épître aux Hébreux, c'est le point de vue sacerdotal, je dirais, encore en fonction de l'Ancien Testament. Et dans l'évangile de saint Jean, c'est sacerdotal au sens plénier, c'est-à-dire comme fils bien-aimé. C'est le sacerdoce d'amour. Ce sacerdoce d'amour exige que le prêtre soit en même temps victime. Oui, c'est ce qui fait comprendre comment le sacerdoce ne peut s'épanouir pleinement et totalement que si nous suivons l'agneau partout où il va. Oui, c'est l'alliance du sacerdoce et de la vie religieuse. C'est ça qui est très étonnant. Hein. C'est pour ça que Jean montre bien l'alliance du sacerdoce et de la vie religieuse. Le sacerdoce ne peut s'épanouir pleinement que si on est totalement donné, comme agneau, que si on suit l'agneau partout où il va. Et alors le sacerdoce ne peut s'épanouir qu'à travers l'état victimal. C'est l'état victimal du Christ qui nous fait comprendre son sacerdoce, et qui nous fait comprendre que ce sacerdoce est un sacerdoce d'amour. Le sacerdoce d'amour s'oppose, voyez, à toutes ces conceptions du sacerdoce qui n'est qu'une fonction. Le sacerdoce du Christ est une vie, et une vie d'amour. Et donc, si c'est une vie d'amour, ça exige que tout soit donné et que tout soit offert. Et ça, c'est nécessairement un sacerdoce d'amour parce que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, selon l'épître aux Saint-Jean, selon l'épître aux Hébreux. Voyons maintenant le second moment de la multiplication des pains. Chapitre 6, au chapitre 12. Vous voyez bien le chapitre 12, ce que ça représente. Hein. Le chapitre 12, c'est l'onction de Béthanie. Donc, de nouveau, un repas, l'onction de Bethany, vous voyez, le troisième repas. Ce repas est tout à fait différent des deux autres, puisque c'est un repas d'action de grâce, l'onction de Bethany. Mais c'est un repas d'action de grâce et en même temps un repas tragique, puisque c'est là où Judas, pour la première fois, va se dévoiler. C'est très curieux, hein. Si vous êtes attentif, et alors là, c'est là où on voit combien tout ça est ordonné. Si vous êtes attentif, chapitre 6, regardez la fin du chapitre 6. Hein. Vous voyez que dans la fin du chapitre 6, Jésus dit, au milieu de vous, il y a un démon. Et Jean souligne, il parlait de Judas. Et si vous regardez le chapitre 12, vous voyez que Judas, qui là se tait, hein, quand Jésus a dit « Au milieu de vous, il y a un démon », Judas aurait dû se dévoiler et demander pardon, se mettre à genoux, faire sa coulpe, en disant « Pardon, pardon ». Judas est resté dans le silence. Aucun apôtre n'a pu savoir que c'était Judas, non Jésus. Judas savait que c'était lui, que Jésus parlait de lui. Judas est resté dans le silence. C'est très important ça, vous voyez. Parce que Jésus l'a averti. Il l'a averti que Judas n'a pas accepté le grand discours du pain de vie. C'est toujours à l'égard de l'Eucharistie que se fait la tentation. Toujours. Les brisures dans l'Église se font à partir du sacrement de l'Eucharistie. Et ça, c'est évident dans Saint Jean. Le grand discours du pain de vie, Judas ne l'a pas accepté. C'est pour ça que Jésus dit, au milieu de vous, il y a un démon. Et le chapitre 12, c'est Judas qui lui-même manifeste qu'il n'est pas d'accord avec ce lien qui va se réaliser entre Marie, la sœur de Lazare, et Jésus. Judas ne peut pas supporter l'action de grâce. C'est très étonnant. Nous le reverrons ça, parce que l'évangile de Jean montre dans une très grande lumière ce qu'est le mystère de Judas. C'est une très grande lumière, beaucoup plus que tous les autres, hein, parce que Jean a senti ce qu'a représenté cette opposition de Judas. Alors c'est intéressant de voir, et ça seul Jean le montre, que le mystère de Judas apparaît en premier lieu dans le refus du mystère de l'Eucharistie, dans l'annonce prophétique du mystère de l'Eucharistie. Judas, c'est celui qui refuse le mystère de l'Eucharistie. C'est-à-dire qui refuse l'amour dans ce qu'il a d'excessif. Cette parole est trop dure. C'est vrai, c'est excessif au point de vue de l'amour, hein, l'Eucharistie. C'est va au-delà des paroles. C'est quelque chose qui va le plus loin qu'on peut penser. Alors, Judas refuse ça. C'est pour ça que Claudel dit, Judas, c'est le rationaliste. Vous savez, le Judas de Claudel, hein, ça c'est pas mal, le Judas de Claudel, si vous l'avez sous la main, il faut le relire de temps en temps, parce que c'est une des très belles choses de Claudel. Là, il a très très bien saisi. Très bien saisi, parce que je crois que c'est lui-même sentait ça, mais je pensais que c'était comme ça, que c'était pas commode du tout de croire, c'est pas commode du tout de croire en l'amour et au primat de l'amour. Et alors, le chapitre 12, qui nous fait entrer dans la troisième période, c'est Judas qui ponctue au point de départ. Bon, voyons la seconde période, hein, le second moment de la vie apostolique de Jésus. De la multiplication des pains à l'onction de Béthanie. À première vue, on est d'accord avec ce cher professeur d'exégèse. Hein, c'est terriblement chaotique. Chercher un ordre du chapitre 6 au chapitre 12, ça me semble très difficile. Très difficile, c'est très très chaotique. C'est pas étonnant, c'est le mystère des grandes luttes. Vous voyez, après les prémices, ce sont les grandes luttes. C'est toujours comme ça. Ce sont les grandes luttes. Quand on est en présence des grandes luttes, tout est chaotique. On ne reconnaît plus rien. Dans les prémices, on est en face d'un printemps, les éclosions de l'amour. Donc c'est très bien organisé, c'est merveilleux, c'est étonnant. Tandis que les luttes, on ne voit plus rien du tout. Ce sont les grandes luttes. Si vous êtes attentif, vous voyez que à travers ces luttes, il y a un mystère de présence. Et ça, c'est très beau. Jésus, du chapitre 6 au chapitre 12, affirme successivement « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis. » Puis à partir du chapitre 10, donc toujours du chapitre 6 au chapitre 12, « Je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis le Fils de Dieu. » Et en dernier lieu, « Je suis la résurrection. » Vous avez donc sept affirmations de la présence de Jésus. Et vous retrouvez le chiffre 7. Hein? Quand même très curieux. C'est sous-jacent, c'est normal. Parce que l'agneau, il est mu par l'esprit. Il est sous l'emprise de l'esprit, la plénitude de l'esprit dans le Christ. Et donc il est normal que Jésus agisse directement sous la mouvance de l'esprit. Alors nous avons donc ces sept grandes présences. Vous voyez, alors je pourrais dire que du chapitre 6 au chapitre 12, nous sommes en présence, nous sommes en face de la théologie de la présence. Les grandes luttes permettent des plus grandes présences. Là, on aurait des petites comparaisons très intéressantes à faire, et il faudrait regarder l'Apocalypse, hein, parce que l'Apocalypse, c'est les grandes luttes. Et là, ça permet des plus grandes présences. C'est vrai que, en temps de paix, hein, il y a une hiérarchie bien observée. En temps de paix. C'est pas commode de toucher celui qui est le général suprême. Hein. Pas commode d'atteindre le Saint-Père, en dehors des petits escaliers de service, hein. C'est pas commode, c'est difficile. Il y a des gens qui essaient et puis qui n'y arrivent pas, parce qu'ils portent ils essaient d'entrer par l'ordre hiérarchique. Selon l'ordre hiérarchique, il y a des distances du petit dernier proche du général. En temps de guerre, le petit pioupiou est tout proche du général. Très curieux, ça. C'est le propre du temps de guerre, ça. Le petit dernier, il peut se trouver subitement. Il n'y a plus cet ordre hiérarchique. L'ordre hiérarchique n'est pas un absolu. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Il faut de l'ordre, il faut une hiérarchie. Mais ce n'est pas la dernière finalité. La hiérarchie est en vue de l'amour. Et alors, il y a ces tempêtes, il y a ces luttes, pour que nous comprenions le mystère de la présence. C'est à travers les luttes qu'on comprend le mieux l'amour. Celui qui n'a jamais lutté ne sait pas ce que c'est que l'amour. Parce que l'amour se donne à travers les luttes. Parce qu'à travers les luttes, il comprend que l'amour est plus fort que les luttes. Alors je reviendrai hein, sur ce mystère des sept présences, parce que je crois ça très important, de bien saisir ça. Pour saisir, voyez, l'ordre. C'est un grand regard, si vous voulez, une vision aérienne que je vous donne. Mais je crois que c'est une clé pour entrer dans le mystère de l'évangile de Saint Jean. Ça nous aide à avoir une théologie johannique, puis alors après nous regarderons tous les détails et voir comment tout cela se tient admirablement.
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant